France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment le philosophe Vladimir Djankélévitch peut nous aider à mieux vivre et pourquoi pas à être heureux. Philosophe iconoclaste, Vladimir Djankélévitch, né en 1903 à Bourges et meurt à Paris en 1985. Djankélévitch, un philosophe libre qui fuyait les systèmes dogmatiques, les idéologies et les ismes en tout genre, du communisme au structuralisme. La pensée plus que jamais actuelle de Djankélévitch explore à merveille le quotidien, la mort, le temps, la musique, le charme, l'ironie ou encore le pardon. Parmi les grandes leçons de Djankélévitch, ne manquez pas votre unique matinée de printemps, vivre sa vie ici et maintenant, pas demain et nulle part ailleurs, comme le rappelle Cynthia Fleury dans Un été avec Djankélévitch. Djankélévitch, philosophe moral dans tous les sens du terme, car pour lui, seul comptait l'exemple que le philosophe donne par sa vie et ses actes. Nos invités vous éclairent ce matin sur ce penseur majeur du XXe siècle, à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France en laissant messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Son credo, explorer les subtilités de notre quotidien, l'importance de l'expérience vécue. Djankélévitch parle de la vie, de la mort, de l'amour, du temps, de la musique. Contrairement à beaucoup, il n'appartient à aucun courant philosophique. Il refuse tous les prêt-à-penser.
Bonjour Fabrice Gardel.
Bonjour.
Vous êtes auteur et réalisateur de documentaires. Vous avez co-réalisé avec Mathieu Wechsler le documentaire Vladimir Djankélévitch, Penser la vie, diffusé le 2 juin prochain à 20h30 sur LCP, la chaîne parlementaire, un film produit, coproduit par l'INA. Un documentaire très réussi qui donne envie de se plonger dans l'œuvre de Vladimir Djankélévitch. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Fabrice Gardel, après avoir vécu quelques mois en compagnie pour réaliser ce film?
Eh bien, c'est exactement le thème de cette émission, c'est qu'il aide à vivre. Et il aide à vivre tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Il est vraiment très accessible et il parle des je ne sais quoi et du charme, et c'est sans doute son charme. Mmh. Il accepte, et c'est paradoxe, inconsolable et gay, comme aurait dit des proches. Voilà. Et nos imperfections, peut-être vous Ali, vous auriez préféré être un peu plus grand ou un peu plus fort. Mais en fait, vous avez du charme, vous avez l'œil vif. Voilà. Eh bien, réjouissez-vous de cela Ali, et ne soyez pas triste de ne pas être Gary Grant.
Bonjour. Bonjour Françoise Schwab.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de l'œuvre de Djankélévitch. Vous avez publié chez Albin Michel en 2023 Vladimir Djankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi. Et vous avez co-dirigé le beau cahier de Lerne consacré à Djankélévitch. Bonjour Pierre-Michel Klein.
Bonjour.
Vous êtes philosophe spécialiste de l'œuvre de Djankélévitch, président de l'association Vladimir Djankélévitch. Vous avez été l'étudiant de Djankélévitch.
Oui.
Pourquoi a-t-il eu une si grande influence sur vous et sur ses étudiants? C'est ce qui revient notamment dans le documentaire de Fabrice Gardel. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce qu'il vous a apporté de fondamental dans votre vie d'étudiant?
Je crois que ce qu'il m'a apporté, c'est justement ce qu'il s'est effacé, tout en étant présent. C'est-à-dire qu'il était lui-même une sorte de représentant de sa propre philosophie du mystère, du je ne sais quoi, et de l'évanescence, et en même temps de la modestie absolument vraie, véridique, sincère. Et la sincérité chez lui est le commencement de la morale. Donc ce qu'il m'a apporté, c'est justement cette sincérité par rapport à laquelle il s'effaçait pour me laisser faire ce que j'avais à faire et penser ce que j'avais à penser, moi.
La sincérité, c'est également l'adéquation de sa vie et de sa pensée.
Oui, puisque ça, c'est son principe. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et puis, ce qu'on a fait, eh bien, on l'a fait, c'est irrévocable. Mais en même temps, on n'en est pas possesseur. On peut aussi bien être un personnage moral pendant 5, 10 ans. Et puis, la 11e année, on est affreux. Donc, on n'est pas possesseur de cette moralité à laquelle pourtant on aspire.
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebi.
Normalienne, agrégée et docteur en philosophie. Vous avez nous aidé à rendre lumineux certains concepts développés par Vladimir Jankélévitch. Tiens, comment présenteriez-vous sa philosophie à grands traits à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ce matin et qui n'aurait jamais fait de philosophie, François Schwab ?
Oh, c'est une grande question, un vaste programme, comme aurait dit quelqu'un. Et parce qu'il y a quand même l'auteur d'une œuvre considérable, 30 ouvrages, aussi bien de morale, métaphysique et de musique. Donc, résumer ça en quelques mots, bien sûr, c'est un maître de vie, c'est un maître à penser, mais c'est surtout quelqu'un qui part. Lorsque l'on vivait dans son sillage, par son exemple, vous incitez. Il n'y avait aucun hiatus entre l'homme et l'œuvre. Moi, en 25 ans, je ne l'ai jamais surpris une seule fois à dire une chose qu'il ne pouvait pas faire ou à faire quelque chose qui n'était pas conforme à sa pensée pour faire plaisir ou pour être complaisant. La complaisance était vraiment hors de sa façon d'être. Et comme l'a dit un jour Jacques Madaul, ce qui me frappait aussi, c'est cette extrême humilité. Jacques Madaul a dit, son extrême humilité n'est-elle pas... Sa grande humilité n'est-elle pas la forme de son extrême bonté ? Eh bien voilà, il était bon. Et bon, aujourd'hui, c'est un mot galvaudé. On ne dit plus de quelqu'un, il est bon. Hein, voilà, c'est un peu... Voilà. Or, Jankélévitch était un homme profondément bon. Il aimait les minorités. Quand il était petit, il racontait, je ne me mettais pas du côté du héros, mais de celui qui était battu par le héros. Ensuite, il a poursuivi cela en étant auprès des minorités, en étant toujours dans la rue pour crier un message de contestation si cela était nécessaire. Le nombre de marches et de sorties, on l'avait appelé d'ailleurs l'infatigable marcheur de la gauche pour se ficher un peu de lui, parce que souvent, vous savez, le philosophe du je ne sais quoi, l'infatigable marcheur de la gauche, celui qui écrivait des lettres dans Le Monde pour dénoncer les compromissions et toutes ces choses, ça rendait souvent le personnage quelquefois pas sulfureux, mais on se disait bon, il est toujours présent. Eh bien, et malgré cela, il continuait, il ne se lassait pas de participer toujours à tous ces événements. Et c'est donc cet exemple lorsqu'il disait, mais on l'a vu dans le beau film de Fabrice hier soir, lorsqu'il disait j'ai une grande dette vis-à-vis de mes étudiants. Vous trouvez un autre professeur de philosophie à la Sorbonne qui aurait dit une chose pareille. Il se sentait, et il les citait, et il les aimait, et il était proche d'eux en empathie avec ses étudiants.
Exemplarité et bonté, nous dit François Schwab. Laurence de Villers.
Alors, je viens d'apprendre qu'il aimait les westerns, mais ça ne m'étonne pas quand on est... Donc, ça me le rend encore plus agréable, mais ça ne m'étonne pas quand on est un philosophe.
Présentez-le à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas.
Alors, je commencerai par dire, il ne faut pas être arrêté par le style, parce que Jankélévitch, c'est déjà un style. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal, venant de Descartes, qui écrit à l'os, à rentrer dans Jankélévitch. C'est une mélodie, c'est toujours une variation sur un même thème. Donc, il faut accepter d'y rentrer. Comme toute philosophie, faut pas s'arrêter au seuil, il faut y rentrer. Ensuite, alors, moi, il y a des choses qui m'ont marqué à jamais, sa philosophie morale, et puis ce qu'il dit de l'imprescriptible, de l'irrévocable, et même de l'impardonnable, donc ça, j'y reviendrai. Il y a une philosophie morale très forte, très exigeante, mais au plus près de ce que ça signifie intimement, de faire une bonne action et d'être bon. Je suis d'accord, moi je vais même plus loin, ouais. Je parle des gentils, donc être gentil. Ça c'est vraiment une entrée dans Jankélévitch. Et puis il y a la philosophie du temps. Enfin, il a été marqué par Bergson, certains disent que c'est un de ses élèves. Moi je pense que comme tous les bons élèves, il l'a trahi, il est allé ailleurs. Mais il essaie de saisir quelque chose qui est presque insaisissable, c'est ce qui n'est pas encore, vous savez, ce moment où la note n'est pas encore là. Elle n'est pas frappée, elle n'est pas jouée. Pourtant, elle est déjà un peu là, on la attend. Et puis, il essaie de saisir aussi ce qui ne sera plus jamais. Donc, une fois que la note est jouée, elle est jouée. Donc, il est aussi, j'ajouterais, un philosophe du mystère. Vous voyez, ce pas encore, ce jamais plus, ce presque rien, ce qui n'est pas là, mais qui est quand même là. Ce qui est là, mais insaisissable, je ne sais quoi. Donc, il écrit une philosophie, c'est paradoxal, hein, de l'impensable, ce qu'on a du mal à penser, ce qui est de l'être, mais pas de l'être vraiment, le pardon, l'amour, la mort. Et puis, j'ajouterai une dernière chose, c'est de la philosophie française. Alors, je ne dis absolument pas ça par chauvinisme, ni par nationalisme, mais il y a un style de la philosophie française. Il y a Descartes, il y a Pascal, il y a La Rochefoucauld, il y a Jeanquet, Lévitch, il y a Rousseau et il y a Nietzsche, qui dit qu'il en est l'héritier. Alors, en deux mots, c'est quoi, Ali, la philosophie française, je crois? C'est une interrogation sur la forme et le format. C'est ça le style de Jeanquet Lévitch. Oui. Il essaie toujours de travailler le langage pour qu'il dise ce qu'il veut dire. Et puis, je crois qu'il y a dans la philosophie française une critique de ce qu'on croit être la sagesse philosophique, et il le dit. Oui. Jeanquet Lévitch va écrire contre les philosophes, et je crois un engagement, faut le dire, hein. Juif, il est destitué de la fonction publique en 40, il va distribuer des tracts au risque de sa vie, et il dira de Sartre, au même moment... s'engager, c'est pas faire un parcours de conférence, un cycle de conférence où on s'engage à s'engager. C'est vraiment le faire.
Pierre-Michel Klein, présentez-nous votre Jeanquet Lévitch. Présentez-le à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler.
Ben, je crois que Jeanquet Lévitch, d'abord, c'est un philosophe, c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé. Il travaillait tous les soirs, il écrivait tous les soirs, à partir de 11h jusqu'à 1h, 2h du matin. Et donc des livres extrêmement précis qui rentrent dans les catégories les plus précises et les plus difficiles de la philosophie. C'est pourquoi, effectivement, ça peut être difficile d'y rentrer. Mais en même temps, comme on vient de le dire, effectivement, il y a une sorte d'ouverture. Et quand on rentre dans quelque chose qui nous touche, parce que c'est nous-mêmes. Il parle de nous-mêmes, non pas en tant que nous sommes un professeur, un métallurgiste, un artisan... parle de nous-mêmes en tant que nous sommes, et que nous sommes à nous-mêmes une sorte de mystère, parce que nous sommes nés, c'est déjà le premier mystère, nous sommes nés à cette époque-ci, de ces parents-ci, mais surtout nous sommes nés, et puis nous allons mourir, donc nous allons mourir, nous le savons. Nous savons que nous allons mourir, mais en même temps, nous ne savons pas quand. Donc là aussi, il y a une sorte de mystère. On parle de nous. On parle de nous-mêmes. Donc on rentre dans une philosophie extrêmement précise et quelquefois difficile, mais qui parle de ce qu'il y a de plus simple et de plus mystérieux. À savoir que nous sommes nés, nous devenons dans le temps. Nous avons des instants, quelquefois, de joie et de tristesse, des terribles tremblements en même temps que des nostalgies douces. Et puis, un jour, nous allons partir. Et nous voyons partir aussi ceux que nous aimons. Et nous voyons aussi partir des gens que nous ne connaissons pas. Et ils pensent tout ce qui est humain en nous, en même temps que c'est quelque chose qui disparaît dès lors qu'on y pense. C'est-à-dire que nous nous échappons à nous-mêmes. Nous ne savons pas nous savons qui nous sommes, mais ce que nous savons surtout, c'est que nous sommes. C'est la distinction qu'il fait entre l'effectivité d'être et puis toutes les modalités qui sont les nôtres de jour en jour, de semaine en semaine, avec ce que nous espérons, ce dont nous souvenons. Mais ce qui est surtout mystérieux, c'est que nous savons que nous sommes, mais nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire.
Et vous, Fabrice Gardel, c'est son courage, son intégrité, sa lucidité qui vous ont inspiré, alors que nous vivons une époque chaotique où règne la confusion morale et intellectuelle. C'est pour cela que vous avez choisi de réaliser ce film sur Jeanquet Lévitch.
Alors, pour rendre à César ce qui est à César, c'est Emmanuel Kessler qui a eu cette idée, qui avait travaillé sur Bergson. Il y a une chose auquel je suis très attentif depuis des années, c'est la constance et la cohérence des gens. J'ai fait un film sur Albert Camus, un film sur Raymond Aron, et on retrouve cette constance, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des gens qui pensent comme ils vivent et qui vivent comme ils pensent. Et c'est pas si constant, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Et il y a une chose qui aussi, je pense, aide à vivre, c'est la philosophie de l'action. C'est-à-dire, la vie est une dette que l'on paye avec des actes. Il reprend la formule de Bergson, n'écoutez pas ce que disent les philosophes, regardez ce qu'ils font. Et je pense que d'avoir un cap, par exemple, sur les questions d'antisémitisme, il n'a pas dévié. Sur sa solitude, il est resté, même s'il n'était pas dans les milieux intellectuels à la mode comme Sartre, jusqu'à la fin de sa vie, et puis à 80 ans, apostrophe, voilà. Et je trouve que cet éloge de la constance...
Il est reçu par Bernard Pivot dans apostrophe, voilà. Et là, ça a été la révélation au grand public.
Il dit, en une soirée, j'ai vendu plus de livres que toute ma vie. Et je trouve que, voilà, la constance et la cohérence sont des belles valeurs.
Et vous avez raison, il a condamné tout au long de sa vie tous les abus de pouvoir, les totalitarismes, les discriminations, l'antisémitisme, le racisme. Il a été d'une grande clairvoyance politique. Allez, on accueille avec nous Marie-Laure Sunshine, rédactrice en chef Femme Actuelle.
Bonjour.
Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Eh bien, de quel je ne sais quoi se nourrir aujourd'hui en ces temps anxiogènes?
Et on va revenir sur ces deux notions très importantes, le je ne sais quoi et le presque rien. Vous allez nous expliquer précisément ce que c'est. Bonjour Christophe André.
Bonjour
Ali. Votre psy préféré. Quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien, je parlerai de ces personnes qu'on appelle des maîtres de vie, maîtres de papier, maîtres de chair, maîtres de mémoire, maîtres transitoires, et puis aussi les automètres et les centimètres. C'est au programme.
Bien vous fasse.
Enseigner la philosophie, pour moi, c'est comprendre qu'on comprendra jamais rien d'autre que notre propre incapacité à comprendre notre incompréhension.
Sur France Inter.
Comment le philosophe Vladimir Jankélévitch peut nous aider dans la vie? C'est notre thème ce matin à l'occasion de du 40e anniversaire de sa disparition. Fabrice Gardel, je rappelle que vous réalisez le documentaire Vladimir Jankélévitch, Penser la vie, qui passera lundi prochain à 20h30 sur LCP. Jankélévitch, qui naît en 1903 à Bourges et meurt à Paris en 1985. Si Jankélévitch naît à Bourges, c'est parce que ses parents juifs russes fuyaient les pogroms, les massacres de juifs en vigueur sur la Russie tsariste.
Oui, en effet, on a parlé de la cohérence d'une trajectoire. Si on revient sur sa trajectoire, ses parents sont effectivement des émigrés russes d'origine juive, mais lui est tout à fait laïque et fait, oui. il a été adopté par la France et il a adopté les valeurs françaises. Pour lui, la France, c'était Victor Hugo, c'était Descartes. Il était brillantissime, il termine premier à l'agrégation, il croise Aron, Sartre.
Et il est meilleur qu'eux.
Oui, il est meilleur qu'eux. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. Donc, il donne le meilleur à la France et la France lui donne le meilleur. Et en 1940, comme il est déchu de son statut parce que juif, c'est une cassure, une brisure.
Il est professeur révoqué en juillet 1940.
Oui. Voilà.
Et à cause du statut des juifs.
François Schwab.
Et à ce moment-là, en fait, ses parents, ce qu'il faudrait ajouter peut-être, Fabrice, c'est que ses parents. Ses parents à lui sont venus à Montpellier faire leurs études de médecine. Il n'y avait pas encore, je crois, les pogroms. Ils sont venus pour apprendre, pour devenir médecin. Et comme les gros pogroms sont arrivés à ce moment-là, son papa, sa maman et ses parents étaient de Rostov et d'Odessa, ils ont dit à leurs enfants de ne pas rentrer. Et c'est là qu'il s'est installé à Bourges, et il a, avec sa femme qui était médecin aussi, ce qui était très rare dans les années 1887 ou 10 d'être une femme médecin, une des premières femmes médecins, et elle n'a pas exercé la médecine, elle s'est consacrée à s'occuper de sa famille. Là, il vit comme au sein d'une famille brillante parce que son papa n'est pas seulement un médecin otorino, oui, mais aussi un traducteur d'œuvres de 6 ou 7 langues. Enfin, un humaniste, oui, invraisemblable. Il découvre un jour un docteur qui parle de l'inconscient, il lui écrit et il est le premier traducteur des œuvres de Freud au début du siècle. Oui. Ensuite, il traduit Schelling, Hegel, Walter Pater de l'anglais, il est ami avec Benedetto Croce. Enfin, il lui ouvre une palette. Et Jankélévitch vit dans ce creuset. Arrive cette guerre et la guerre. Il est bien sûr combattant. Il est blessé.
Il fuit à Toulouse. Il fuit à Toulouse.
Alors, ses parents s'étaient réfugiés à Toulouse pendant que lui était au combat avec Jean Cassou, qui était son beau-frère, et leur fille, donc Ida. Et ils s'étaient installés à Toulouse. Et Jankélévitch, après sa blessure à l'épaule à Marmande, lorsqu'il est démobilisé et que la guerre s'arrête, on sait pourquoi, il retrouve sa famille et il passe toute la guerre effectivement à Toulouse, où il forge de très belles amitiés, où il évidemment est affilié, étant révoqué de l'université, il n'a pas de moyens de subvenir, il ne reçoit plus son traitement, alors il fait son premier cours sur la mort dans l'arrière-salle du café du Capitole à Toulouse, et il y a une petite sébille où les étudiants mettent un petit peu d'argent, et il y a un étudiant devant la porte qui fait le guet, parce que c'est dangereux.
Et Pierre-Michel Klein, je rappelle que vous êtes philosophe spécialiste de l'œuvre de Jean Kilevitch. Rien ne sera plus jamais comme avant, après-guerre. Il y aura un avant et un après. Il ne se remettra jamais des blessures qui lui auront été épargnées, dit-il, à savoir la déportation vers les camps d'extermination. Qu'est-ce qui change après-guerre dans sa philosophie, Pierre-Michel Klein?
Bah, je dirais, il y a deux aspects. Il y en a plusieurs, mais au moins, il y en a deux. Le premier, c'est le choc qui fut le sien, effectivement, en 40, quand il a été déchu de cette possibilité d'enseigner. Pourquoi ? Parce qu'il était, n'était pas français à titre originaire, dans un premier temps, et puis, dans un deuxième temps, il était juif, et donc il devait subir les lois de Vichy. Ça, c'était le choc terrible. Et ce choc-là, pour le comprendre, si tant est qu'on puisse le comprendre, il faut se reporter au choc de l'antisémitisme, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a eu un choc extraordinaire au moment de l'affaire Dreyfus, où tout à coup, les juifs les plus assimilés se sont retrouvés juifs, comme Dreyfus lui-même d'ailleurs, alors que la France était démocratique, républicaine, et puis en fait il y avait un antisémitisme profond qui sourdait et qui pouvait apparaître à n'importe quel moment. Et tout à coup, en 1940, même chose.
Et puis il y a le choc de la déportation.
Choc. Et ensuite, le choc qui est encore un choc qui n'est sans commune mesure avec le premier. C'est le second, c'est-à-dire Auschwitz, l'extermination, tout ce que...
Qu'est-ce que ça change dans sa philosophie profondément après-guerre ?
Ben, ça change, je vais le dire un petit peu avec ces mots philosophiques. Ça change que jusqu'à présent, jusqu'à la guerre, il jouait du piano, il écrivait sur l'ironie, il écrivait sur Bergson, sur le temps qui fuit, des choses comme ça, très, finalement plutôt sympathiques en philosophie, même si c'est toujours dur que le temps qui fuit. Et puis, il écrivait sur Fourré, mais après, il a fait la différence profonde entre l'indicible et l'ineffable.
C'est-à-dire
la musique. La musique, quand on écoute de la musique, eh bien, on ne peut pas saisir ce que c'est, mais on ne peut pas en parler, parce que c'est difficile de parler de la musique. Mais on peut en parler indéfiniment, et d'ailleurs, lui, il a écrit sur la musique indéfiniment. Et on tourne autour et on n'y arrive pas. Ça, c'est l'ineffable. On ne peut pas en parler parce qu'il y a trop à en dire, et c'est trop profond.
Et l'indicible ?
Mais l'indicible, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire parce qu'on est devant le rien, le bouleversement total, la nuit absolue. Ce n'est pas le nocturne de la nostalgie, ce n'est même pas le nocturne du tout. C'est la nuit, comme Wiesel en avait parlé.
Laurence de Villers, philosophe.
C'est le mal, le choc, c'est la rencontre et le fait d'avoir à penser le mal, vraiment au sens très très fort, la violence injustifiée, la cruauté, l'humiliation, l'abus de pouvoir. Donc le mal, ça crée une césure dans la philosophie. Et ce ne sont pas que des mots, parce qu'il va essayer de montrer, il va essayer de penser le pardon. Il va, à mon sens, aboutir à l'impardonnable, mais il va essayer de penser le pardon. C'est-à-dire que la faute... Pourquoi penser le pardon ? Pour deux raisons. C'est-à-dire que la faute, elle a lieu à jamais. Parce que le temps de la morale, le temps du bien et du mal, c'est pas le temps biologique qui passe, qui fait vieillir et qui guérit les blessures. Ça, c'est biologique de guérir les blessures. Le temps moral, c'est ce qui a été fait et fait à jamais. Donc, en ce sens-là, la faute semble... impardonnable. Mais alors, comment on peut pardonner ? Ça, c'est la deuxième chose. Il va dire, et peut-être qu'on doit en rester à ce paradoxe, quand on pense le mal, il va dire le pardon est plus fort que le mal. Ça, on peut comprendre. Le pardon se hisse à la hauteur du mal, et non pas efface le mal, mais dit ça a eu lieu et je pardonne. Mais il ajoute, et c'est là que c'est important, il ajoute le mal est plus fort que le pardon. Ce qui veut dire qu'en fait, même si vous pardonnez, le mal reste là, il y a un fait du mal, et je pense que chez lui, ça aboutit à l'idée d'imprescriptible et d'impardonnable.
Rappelons que c'est le premier à écrire que les crimes nazis sont imprescriptibles. Pour lui, le temps n'a pas de prise sur le crime. Il l'écrit dans Le Monde en 1965.
Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'on vient de le voir. Il est à la fois d'une radicalité absolue. Mmh. Il ne lit plus de philosophe allemand alors qu'il était agrégé de philo, qu'il avait fait sa thèse. Il n'écoute plus de musique allemande, mais ce qu'on montre dans le film, en 1980, il fait une émission au Masque et la Plume, d'ailleurs dans ses studios, où il s'emporte un peu, ces Allemands, ils sont gros, ils ont leur marque, tout va bien. Moi, je n'ai jamais reçu une lettre d'un professeur allemand pour s'excuser. Et il est très en colère. Et il y a un professeur au fin fond de l'Allemagne, qui a 40 ans, un professeur de français qui entend ça, à l'époque, j'imagine, et qui lui écrit une lettre en disant « Je ne suis pour rien, je n'ai pas tué de juifs, moi. »
« Je suis innocent, mais je ne suis pas tranquille. » »«
Je ne m'en remettrai jamais. » Et il lui écrit une lettre, Kéoffler, et cet homme...
Il habitait Kéoffler à Paris.
À Kéoffler à Paris, et qui lui dit « Venez à Paris, venez me voir. » Et là, Jean Kelevitch, c'est ce qu'il appelle une matinée de printemps. Il va changer, il va recueillir cet Allemand. Donc il y a toujours une possibilité de renaissance.
François Schwab.
Vous serez le messager du printemps. Lorsque j'ai découvert cette lettre, j'étais à cette émission du Masque et la Plume, je l'ai ramené, et il m'a dit « J'ai exagéré, j'ai été trop véhément. » Et ça va me valoir encore des tombereaux. Bon, bref. Et heureusement, parce que je pense que cette réaction de ce jeune Raveling lui a fait un bien fou. Et il lui a dit, il l'a invité en Allemagne. Il a répondu non, je ne viendrai pas en Allemagne. Mais par contre, vous êtes le bienvenu, Kéoffler. Et lorsque vous viendrez, vous serez le messager du printemps. Et il a eu enfin ce qu'il a dit pendant tout le temps. Toute une éternité de livres et de textes où il a dit « Nous ont-ils jamais demandé pardon ?» Et il faut aussi savoir que c'est pendant la guerre, en 1943, avant de savoir les crimes de la Shoah, qu'il avait écrit ce magnifique texte qui s'appelle « Psychoanalyse de l'antisémitisme ». Sous le manteau, évidemment, pas sous son nom, avec deux autres amis, ils avaient publié cette brochure. Et là, il analysait déjà des phénomènes qui ont engendré ce qu'il a découvert avec horreur lorsqu'il l'a su. Et à ce moment-là, pour lui, ce qui était le plus choquant, c'est qu'on tuait en l'homme, non pas ce qu'il... On le tuait pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Et il disait, lorsqu'un peuple ou n'importe qui est capable de s'attaquer à l'autre et de viser dans l'autre son humanité, il raye à la fois l'humanité de tous les autres. Ils sont comptables de ces horreurs. Et c'est cette méditation infinie sur ce crime insondable qui, comme il le disait aussi, hantait ses nuits, et il n'a jamais pu s'en remettre, est d'autant plus violent qu'il avait été, comme tu l'as dit, très adepte. Il avait fait sa thèse sur Schelling, et qu'avant la guerre, c'était un jeune philosophe brillant, idéaliste, et après la guerre, cette rupture a engagé le philosophe dans l'action.
Allez, je vous propose d'écouter Vladimir Jankélévitch à propos du bonheur, c'était en 1979.
Le bonheur est capricieux, vous savez, il est comme l'amour, il vient au moment où s'y attendait le moins. Il vaut mieux avoir de l'argent que ne pas en avoir, il vaut mieux pouvoir voyager que ne pas pouvoir voyager, il vaut mieux pouvoir aller au théâtre et au concert que d'en être privé. Mais une fois que vous réunissez toutes ces conditions et que vous avez énormément d'argent pour faire tout ce qui vous plaît, eh bien vous sentez subitement un grand désert en vous. Une grande solitude, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il y a tant de milliardaires qui s'ennuient. Nous les envions, mais eux, ils s'ennuient, quelquefois, ils se suicident tellement ils s'ennuient. Ils sont au comble de leurs vœux et ils ne sont pas heureux. Alors, qu'est-ce qu'il leur faut pour être heureux ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Eh bien, il leur faut probablement un peu d'insouciance, d'innocence, un retour à l'innocence. Et si je suis heureux, et je m'en aperçois même pas, car le véritable bonheur est inconscient de soi. Si je me dis « Ah, ce que je suis heureux, oh, comme je suis heureux, nom de Dieu, ce que je suis heureux », alors il est temps de se méfier. Ça veut donc dire que mon bonheur est précaire, qu'il va se dissiper, n'est-ce pas ? Qu'il est fragile, qu'il est à la merci des circonstances. Quand je suis vraiment heureux, je n'en sais rien. Le bonheur est naturellement innocent. Alors, quelqu'un qui jouerait du piano pour se dire « ça va me dissiper mon ennui, mon spleen, va disparaître » et qui s'en sert comme un médicament, comment voulez-vous qu'il soit heureux ? C'est pas des conditions pour être heureux. Je suis heureux en ce moment. Un peu fatigué, mais heureux. En tout cas, l'idée que je pourrais l'être, déjà me rend un peu heureux. On est un peu heureux à l'idée qu'on pourrait l'être. Et que c'est à la portée de tout le monde. Et qu'il vient subitement comme une grâce, descend sur vous au moment où s'y attendez le moins.
Laurence de Villers, sur ses propos de Jankélévitch en 1979.
Ben oui, ben on sent le prof de philo, enfin le prof de philo comme on aimerait en avoir eu et comme on aimerait en avoir. C'est vraiment, enfin, il l'a dit dans cette émission où il est reçu par Pivot. Il dit quelque chose qu'à mon sens on devrait mettre sur tous les frontons des cours de philo. La philosophie, on peut pas en parler, faut en faire. Et c'est ça aussi le mystère de cette discipline, c'est que elle ne peut jamais se réduire à l'énoncé de doctrine, de concept, surtout pas de isme. C'est une activité. C'est, vous savez ce que c'est que la philo quand vous vous mettez à en faire. Alors, le bonheur, évidemment, moi je me dis que si vous invitiez Ali, Jeanquet,
On l'appelait une... Jeanquet,
oui. Jeanquet Lévitch, si vous l'invitiez à une émission sur c'est quoi le développement personnel, bah, il vous dirait bah, c'est quoi le bonheur, c'est pas un remède, on peut pas l'avaler comme un médicament. Alors il prononce le mot de grâce, je crois que ça, et ça me permet de dire peut-être deux choses et de les confier à ceux qui connaissent beaucoup mieux Jeanquet Lévitch que moi, mais c'est un mot qui est beaucoup employé dans la théologie chrétienne, et il y a un rapport très particulier de Jeanquet Lévitch au christianisme. Il cite sur le pardon, il cite beaucoup saint Paul. Enfin, il y a un rapport très intéressant au christianisme, je dirais même au catholicisme. Et puis la grâce, c'est le je ne sais quoi.
On y vient là. Alors on y vient à ce fameux je ne sais quoi et ou presque rien. Il disait que c'est ce qui rendait les autres qualités opérantes, sans lesquelles nos perfections seraient lettres mortes. Sans le je ne sais quoi et le presque rien, il s'agirait, je le cite, d'une perfection de momie. C'est quoi le je ne sais quoi et le presque rien qui peut être difficile à aborder pour nos auditeurs là ce matin? François Choix, pouvons-nous expliquer ces notions? Parce qu'il disait que c'était la même chose dans certaines interviews.
Oui, c'est-à-dire qu'il cherchait toujours, lorsqu'il étudiait un thème, quel qu'il soit, d'aller à la dernière limite, à la frontière de l'impensable. Et c'est donc une pensée de l'entrevision. Il y a le clos qui est la mort. Et la pensée, en fait, notre vie est bordée entre l'action et puis où nous agissons, et le clos de la mort qui est l'ouverture de l'action. Entre les deux, il y a l'entrouvert, l'entrouverture, qui est une notion très importante, l'entrevision chez Jeanquet Lévitch. Pourquoi ? Parce qu'on ce sont des mots labiles, ce sont des mots qui coulent, et on ne peut pas assigner exactement une fonction ou je ne sais quoi. Tout comme il expliquait qu'on ne peut pas dire ce qu'est le charme. On le subit. On est victime de quelqu'un qui vous enchante, qui vous ensorcelle et qui vous charme. Eh bien, il en est de même pour le je ne sais quoi. Alors, c'est une notion quand même qu'il a reprise aussi, le Despero de Balthazar Gracian, qu'il aimait beaucoup, qui
était un jésuite,
le jésuite espagnol du
XVIIe siècle.
Voilà, du XVIe siècle. Et il aimait beaucoup ce jésuite qui avait une pensée très... très, très délié, qui était aussi d'ailleurs le penseur de l'occasion, et Jeanquet Lévitch a été le grand penseur de l'occasion et de la rencontre. Quand on dit ne manquez pas votre magnifique matinée de Pantin, il n'y a pas que ça. Il y a le fait de saisir, d'être au bon moment. Et la douleur provient de l'inadéquation du moment où bien, si on est aimé, l'autre ne vous aime pas, ou de l'inadéquation entre cette rencontre qui n'est pas saisie. Et ça, c'est quelque chose qui le rendait très très malheureux.
Fabrice Gardel.
Sur le je ne sais quoi, il parle au début du film du charme, on en parlait au tout début, et je pense à nos jeunes auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, il y a une sorte de dictature de la beauté, une dictature de la pureté, il faut être pareil, les gens refont sur Instagram, et lui... il explique l'impureté. Il dit à une femme, peut-être que vous avez quelques kilos de trop, peut-être que vous avez un grain de beauté qui n'est pas là. Mais en fait, c'est ça qui fait votre charme.
C'est ce
je ne sais quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour résister comme ça à cette dictature des impératifs de beauté, c'est important de faire cet éloge de l'impureté.
Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Le pur et l'impur ».
Alors moi j'ai compris, je crois, ce que voulait dire Jeanquet Lévitch par « presque rien et je ne sais quoi ». Grâce au tableau de Vermeer, la laitière, ça c'est pas possible qu'on ne connaisse pas. Eh bien, c'est ça, c'est ce je ne sais quoi et presque rien qui fait ce geste à ce moment-là et qui est tel parfaitement. Vous savez, ça fait quoi d'être ce que vous êtes? Ça fait quoi d'être ce que je suis? C'est insaisissable, c'est presque rien. Et c'est ce je ne sais quoi justement qui fait tout mon mystère et toute ma singularité. Je crois que quand on voit tous les tableaux de Vermeer, où le personnage est saisi dans ce qu'il est vraiment, et dans un instant qui ne reviendra pas, ben c'est ça, le je ne sais quoi et le presque rien.
Pierre-Michel Klein.
Pour comprendre le je ne sais quoi et le presque rien, il faut prendre les mots au mot. C'est-à-dire, il y a d'un côté un savoir qui n'en est pas un, mais qui est quand même un savoir. puisqu'il y a je sais, mais en même temps je ne sais pas ce que je sais. Bon, donc il y a un savoir qui n'est pas un savoir, il appelle ça la naissance, ou plutôt que la science.
Naissance.
De l'autre côté, il y a le presque rien. Alors c'est plus du côté de la conscience, c'est du côté de l'objet qu'on essaye de saisir, et cet objet lui-même échappe. Donc le presque rien, c'est cet objet qui échappe à ce savoir qui en est un sans en être un. Donc les deux sont complètement liés. Effectivement, le charme, c'est quelque chose à la fois d'objectif, mais en même temps quelque chose que je saisis sans le saisir. Maintenant, je voudrais quand même ajouter que ce qui est le commencement le fondement même de cette pensée, c'est la pensée de l'instant. C'est-à-dire, on sait, nous vivons à chaque instant. En ce moment même, des instants passent. Mais ces instants sont déjà passés au moment où on va les saisir. Donc, le modèle même du je ne sais quoi, que je sais, sans pouvoir l'objectiver dans une prise, c'est l'instant qui passe. Et donc, dans le temps, ce que Jean Kelevitch ajoute à Bergson, qui était le philosophe de la durée, c'est que Jean Kelevitch est le philosophe de l'instant. Et l'instant, c'est le presque rien que je saisis sans le saisir.
J'ai tout compris. Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Fabrice Gardel, vous parliez à l'instant du charme. Pour effectivement, comme le dit, aller revenir et peut-être essayer d'expliquer un petit peu la pensée de Jean Kelevitch à des jeunes. Ce je ne sais quoi, ce presque rien, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, dans le fait que la santé mentale est la grande cause nationale, troubles anxieux, troubles dépressifs, maladies anxieuses, maladies dépressives, voilà. On a quand même aujourd'hui une espèce de chariot qu'on se traîne de troubles divers. Peut-on aller chercher ces petits presque rien?
Alors, je vais vous dire, il se trouve qu'avec Mathieu Wechsler, donc mon co-réalisateur, on a passé beaucoup de temps, on a écouté énormément d'archives, et ce qui nous a frappé, c'est les paradoxes. C'est en fait, il est inconsolable et gai, il est à la fois sinistre et optimiste. Il est lumineux et sombre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voudrait ranger les gens dans des cases. Alors, est-ce que vous êtes déprimé ou est-ce que vous êtes heureux? Je pense que les gens peuvent chercher cette espèce de paradoxe permanent et ça rendra... les gens seront plus à leur aise parce qu'ils vont assumer leur paradoxe. Et je pense que c'est ça que les gens, et notamment les jeunes, peuvent venir chercher là.
Laurence de Villers.
Alors, je pense que il faut pas se tromper sur le sens de presque rien et je ne sais quoi, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est périphérique, accessoire. Non, en fait, ce que montre Jean Kelevitch, c'est que l'essentiel de nos vies, je dirais le plus précieux de l'existence, du mystère de l'existence, se dit dans quelque chose qu'on a du mal à saisir.
C'est ce que disait bien Pierre-Michel Clarke.
Exactement, et tant mieux. Et alors, l'autre chose, je crois, que dit Jean Kelevitch, et on l'oublie de nos jours, il dit le fait d'avoir vécu. Et ça, c'est très important, parce que nous ne vivons pas ce que nous vivons. Nous surfons, d'ailleurs, on le dit, on surfe à la surface de nos vies, on vit petitement, on vit superficiellement, on vit pauvre, en fait. On compte à la petite cuillère ce que nous vivons, et Jean Kelevitch dit, et il souligne, mais le plus essentiel, ce qui restera à tout jamais, c'est le fait d'avoir vécu. Et nous ne vivons pas nos vécus.
10h46, il est l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Certains livres sont des guides pour nous et leurs auteurs nous aident à mieux vivre en ouvrant notre regard sur une autre manière d'être humain. Ces auteurs qui nous inspirent peuvent être pour nous de véritables maîtres de vie et nous avons parfois, avec ces maîtres de papier, un lien presque aussi fort qu'avec un maître de chair et d'os. D'ailleurs, c'est quoi un maître ? Eh bien, c'est simple, un maître, c'est quelqu'un qui vous dit que ce que vous pensez impossible est possible et vous le croyez. Un maître, c'est quelqu'un qui est cohérent. Il fait lui-même ce qu'il dit et ce qu'il enseigne. Un maître, c'est quelqu'un qui n'a pas réponse à tout, mais qui toujours nous aide à trouver nos réponses. Un maître, c'est quelqu'un qui sourit quand il fait des erreurs. Les maîtres de papier, on les trouve dans les livres. Mais les maîtres de chair, on les trouve où? Certains parlent de hasard, d'autres de destin, d'autres encore de déterminisme. On ne trouve de maître que lorsqu'on est prêt soi-même. Pour ma part, je suis un vénard, j'ai croisé des maîtres tout au long de mon existence. Oui, j'en ai eu plein des maîtres. Mon grand-père, maître en vélo solex et en histoire de Tarasque et de Darnagas. Maître Domingue, mon professeur de judo devant lequel nous nous inclinions à la japonaise avant chaque cours. Mes maîtres en psychiatrie, Lucien Millet, Henri Lot, Jean-Pierre Ollier. Mes trois filles qui m'ont beaucoup appris sur la vie. Tous ces maîtres m'ont inspiré. Et puis un jour est venu le maître.
Moi ?
Hélas, non. Celui que j'appelais le maître, c'était mon beau-père, le plus grand maître de bonheur que j'ai pu voir en action, à maintes reprises, capable d'extraire du bonheur de toute situation, même inconfortable, capable de rester calme pour de vrai, même dans les galères. Alors, depuis sa mort, il est devenu mon maître de vie intériorisé, mon maître de mémoire. J'ai décidé de voir le monde à travers ses yeux et je me demande souvent, qu'aurait pensé le maître dans cette situation ? Comment aurait-il réagi ? Qu'aurait-il fait ou dit ? Simplement, me poser la question comme ça me donne du recul, me fait sourire et c'est un premier pas dans la bonne direction. Maître de papier, maître de chair et d'os, maître de mémoire, ce n'est pas fini. Il y a aussi les maîtres transitoires, les automètres et les centimètres. Maître transitoire, l'artiste Andy Warhol les annonçait dans les années 60 quand il disait « À l'avenir, tout le monde pourra être célèbre une fois dans sa vie pendant 15 minutes ». Et ça prédisait l'époque des réseaux sociaux, des influenceurs et des célébrités jetables. Mais il y a plus intéressant, mieux que célèbre. Tout le monde peut être sage une fois dans sa vie, 15 minutes. Tout le monde peut être un maître transitoire. Et ce sont ces enseignements, ces leçons de vie que nous recevons chaque jour en observant nos semblables dans les moments où ils sont admirables. Les automètres, c'est nous. Lorsque nous sommes ces maîtres transitoires, car si fous ou bourrins que nous soyons, nous pouvons aussi être sages par moments. Toutes les fois où nous pensons contre nous-mêmes, contre nos impulsions, nos orgueils, nos entêtements. Les centimètres, enfin, c'est mon ami et confrère Boris Cyrulnik qui m'en a révélé l'existence. Un jour, lors d'une conférence que nous donnions ensemble, je le chambrai avant d'entrer en scène, en l'appelant « Maître Boris ». Et il me répondit en rigolant « Pas maître, mon vieux, non, non, pas maître, au mieux, centimètre, si tu y tiens ». La grande leçon des centimètres, c'est maître humble, ne jamais faire le malin avec sa sagesse, ne jamais se prendre au sérieux. C'était le conseil d'un autre de mes centimètres, le poète Christian Bobin. Les grands maîtres ne savent pas qu'ils sont grands, ni qu'ils sont maîtres. Allez, que ce soit grâce à vos maîtres de papier, de chair, de mémoire, transitoire, automètre ou centimètre, essayez d'être sage cette semaine et de faire un peu de bien à l'humanité. Mais n'en profitez pas pour faire les malins.
Merci, vous êtes mon kilomètre.
France Inter. Philosophie, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter.
Grand bien vous fasse.
Douter de tout, et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Ali Rebbi.
Comment le philosophe Vladimir Jankélévitch peut nous aider dans la vie ? C'est notre thème ce matin à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Françoise Schwab, je rappelle que vous êtes historienne. Et à propos de Jankélévitch, dans le cahier de Lerne que vous avez co-dirigé, vous parlez de malicieux philosophe. L'humour, la malice, l'ironie, c'est aussi la marque de fabrique de Jankélévitch.
Tout à fait. Cela le caractérisait. Il est, à tous ses cours publics, les rires fusaient dans la salle. Lorsque on était dans son salon, il maniait l'humour avec sans le faire exprès, sans, encore une fois, sincèrement, innocemment. Il lisait de temps en temps des passages de Flers et Cavaillé qu'il adorait et il pleurait de rire, ou Feydeau. Il aimait en fait la légèreté et l'esprit français du début du siècle qui pétillait comme le champagne. Et il aimait ça aussi dans les musiciens qu'il adorait, pour Debussy, Ravel, Fauré.
Comme Eric Satie, par exemple,
Satie, c'est du champagne.
Tiens, écoutons un petit peu de Satie.
C'est du champagne.
La musique source de joie chez Jankélévitch, hein, il disait qu'il n'y a pas de langage musical. La musique, c'est de l'affectif, du viscéral, du corps, du système nerveux. Le jugement vient après.
Il a dit tout cela. Eh bien, effectivement, il disait que sans la musique, la vie serait, comme disaient certains, une erreur. Mais pour lui, c'était plus que ça. Tous les jours, de 7h à 9h, il se mettait à son piano et il disait « Je donne un concert à mes fauteuils ». Quelquefois, j'avais la joie de participer et de l'écouter. Et c'était un bonheur de... Et alors, il était découvreur. Il avait toutes les partitions les plus récentes. Il adorait découvrir des musiciens qu'on connaissait peu, inconnus, et les remettre au goût du jour. Et évidemment, dans ce qu'il aimait dans cette musique, c'est pas la musique pompeuse du 19e siècle allemand, mais c'est la musique qui fait place à la litote, à l'humour, à l'ironie, au sourire de l'âme. L'ironie, disait-il, est un sourire de l'âme. Et c'est cela qui le rendait joyeux.
Et il nous invite à ne pas nous prendre trop au sérieux.
Et il nous invite à ne surtout jamais nous prendre au sérieux, parce que celle-là, c'est comme l'albatros, nous pourrions chuter de cette enflure, même si elle est momentanée. Et il disait aussi une chose merveilleuse, si la joie se meurt, le monde n'en sera pas meilleur. Donc faisons place à la joie.
Un mot tout de même sur la mort, la question de la mort. Il y a consacré un très grand livre que l'on peut se procurer en poche chez Champ Flammarion. Il disait qu'il n'avait pas l'angoisse de la mort, mais il ne cessait, Laurence de Villers, de s'interroger sur l'insupportable mystère de la mort.
Et oui, justement, on disait que Jean Kelevitch, c'est le philosophe qui essaie de saisir ce qui n'est pas encore et qui... Et pourtant, la mort, c'est ça. La mort, c'est, on pourrait dire, c'est une expérience limite, en réalité. Je ne la vis pas, mais je la sais. Et ce qui est intéressant chez Jean Kelevitch, c'est qu'il va bien insister, et vous l'avez dit, sur le fait que ce n'est pas un savoir. Il n'y a pas de leçon à tirer de la mort.
Il disait d'ailleurs que, contrairement à Montaigne, philosophie, ce n'est pas apprendre à mourir. Et il disait qu'on ne peut apprendre une chose que si l'on peut la réitérer, on ne peut pas réitérer la mort, et que on peut apprendre si l'on fait de mieux en mieux. Et concernant la mort, c'est un peu
exactement.
Difficile.
En revanche, ce que la mort nous permet de dire, c'est deux choses, c'est elle fait voler la vie en éclats, c'est-à-dire en instant. Qu'est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a la mort, la vie n'est faite que d'instant, c'est parce que la vie doit se réaffirmer à chaque instant. C'est la seule leçon qui n'en est pas une, puisqu'il s'agit de vivre, qu'on puisse tirer de la mort. Donc c'est vraiment, on l'a dit, c'est le philosophe qui va voir que tout dans notre vie se joue dans un instant. Alors ça ne veut pas dire ce moment fatidique avec une musique hollywoodienne, ça veut dire que chaque instant demande d'être vécu, parce qu'il ne reviendra pas. C'est ce qu'il appelle la semelle factivité. Ça n'a lieu qu'une fois et de cette façon-là. Et puis, il ajoutera même la semelle factivité éternelle, c'est-à-dire ça a lieu à jamais. Donc, la mort fait qu'on ne peut pas rater sa vie, en quelque sorte.
Parce que la mort ne pourra jamais effacer le fait d'avoir vécu.
Non,
tiens, pour terminer cette phrase célèbre, ne pas manquer notre unique matinée de printemps, Laurence de Villers, terminer comme ça.
Parce que, encore une fois, j'insiste, je crois, et tous nos moyens technologiques sont peut-être faits pour qu'on aille dans ce sens-là, nous ne vivons pas. Ça paraît curieux, parce que nous sommes bien vivants, mais nous ne vivons pas ce que nous avons à vivre, et nous ne vivons pas les moments. On le fait par écran interposé, j'étais ce matin dans le métro, alors moi aussi, j'avais mon téléphone, et puis je me suis dit, arrête, tu vas aller à une émission, concentre-toi, regarde autour de toi, et je me suis rendu compte que j'étais la seule, en fait, alors j'étais avec tout le monde en train de regarder mon téléphone, encore une fois, je donne pas de leçons, mais à un moment donné, j'ai été la seule à ne pas être engloutie, diluée, mort-vivante, dans mon téléphone. Est-ce qu'on peut apprendre à vivre sans écran.
Ne pas rater cet instant qui ne survient qu'une fois. Merci beaucoup Laurence de Villers, merci beaucoup Pierre-Michel Klein, François Schwab. On peut lire avec profit Vladimir Jankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi. Et merci Fabrice Gardel. Ne manquez pas lundi prochain parce que c'est très beau à voir, c'est un très beau documentaire, très bien fait avec une musique de Carole Beffa, musique originale. Et ça sera lundi à 20h30 sur la chaîne LCP. Vladimir Jankélévitch, Penser la vie, ça sera rediffusé le 6 juin, mais ça sera sur une autre chaîne.
Oui,
il y aura un changement de numéro.
Diffusé, donc la première diffusion le 2 juin, mais donc à partir du 6 juin, LCP est diffusé sur le canal 8, donc ce sera très très visible. Et je voudrais remercier Lina qui a été le producteur de ce film.
Merci beaucoup. Et demain, on s'intéresse à la santé mentale, notamment de celle des jeunes.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.